VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 27 octobre 2017, en direct de Washington, et Tressa Cédulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au Mali, 3 casques bleus tués et 3 autres blessés dans l'explosion d'une mine dans le nord.
Un autre groupe de soldats américains était dans le secteur lors de l'embuscade qui a coûté la vie à des soldats nigériens américains le 4 octobre près de Tongo Tongo.
Nikki Haley, représentante permanente des États-Unis à l'ONU, est de retour à Kinshasa après une visite dans le nord Kivu.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, prévoit une escale au Cameroun aujourd'hui après sa visite en Centrafrique.
Washington publie des milliers de documents, mais pas tous, sur l'assassinat du président John Kennedy à Dallas, au Texas, en 1963.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, 3 casques bleus de l'ONU ont été tués hier et 3 autres blessés lorsque leur véhicule a heurté une mine ou un engin explosif improvisé dans le nord du pays. Cette attaque fait suite à plusieurs menaces des groupes terroristes et djihadistes qui ont eu le même jour un accrochage avec les soldats français de la force Barkhane. Précision de notre correspondant Kassim Traoré.
En début de semaine, certains terroristes et djihadistes avaient envoyé des messages de menaces dans la ville de Kidal. Ces menaces, selon les habitants de Kidal, proviennent de Nusra al-Islam wal-Muslim du terroriste malien Iyad Agali. C'est pour cela que l'explosion de la mine qui a tué 3 casques bleus tchadiens et blessé 3 autres n'est point une surprise. L'attaque du 26 octobre a visé vers 13h14 un véhicule de la force MINUSMA qui escortait un convoi logistique. Il a heurté une mine ou un engin explosif improvisé sur l'axe Tessalit-Agelhok. Les blessés ont eu droit à une évacuation médicale sur la ville de Kidal, mais c'est tard dans la nuit que les 3 corps des Tchadiens sont arrivés. Dans la même matinée, à Abeibara, toujours dans la région de Kidal, la force française Barkhane a fait des frappes aériennes. Elle a même livré un combat au sol contre les combattants de Nusra al-Islam wal-Muslim. À la suite de ce combat, Barkhane a récupéré d'importants matériels de guerre, des fusils d'assaut et des munitions. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné vivement l'attaque contre le convoi de la MINUSMA. Ils ont demandé au gouvernement du Mali de mener une enquête rapide et de traduire en justice les coupables. Le Conseil de sécurité a également rappelé que les attaques visant des soldats de la paix peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international.
Ici à Washington, le Pentagone a reconnu hier que l'équipe de bérets verts américains tombée dans l'embuscade meurtrière du 4 octobre dernier au Niger n'était pas la seule force américaine dans le secteur. C'est ce qu'a dit un haut responsable militaire américain. 4 soldats américains et 4 soldats nigériens ont été tués dans ce guet-apens quand ils ont été attaqués près du village de Tongo Tongo par une cinquantaine de terroristes lourdement armés liés, pense-t-on, au groupe État islamique. Les détails entourant cette opération et comment elle a tourné à cette tragédie ne sont toujours pas clairs, l'enquête du Pentagone se poursuivant. Selon quelques officiels américains et nigériens, certains villageois auraient pu avoir alerté les terroristes et conduit les soldats dans un piège.
Le président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, a appelé hier le gouvernement et l'opposition au Togo à trouver une issue pacifique à la crise qui a fait au moins 16 morts en 2 mois. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Le président Alpha Condé a reçu hier à Conakry son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Monsieur Condé estime qu'il est important que les choses évoluent de façon pacifique. Le président Ouattara dit lui faire confiance pour le suivi du dossier togolais en relation avec d'autres chefs d'État. Lomé doit accueillir le prochain sommet de la CEDEAO le 16 décembre prochain. Washington et Paris avaient déjà appelé à un dialogue immédiat et sans préalable. Le pouvoir propose un projet de modification constitutionnelle qui prévoit une limitation des mandats présidentiels à 2 et un scrutin présidentiel à 2 tours. La coalition de l'opposition rejette ce texte parce qu'il n'est pas rétroactif et permettrait à Faure Yassingbé, au pouvoir depuis 2005, de se représenter. Elle entend manifester la semaine prochaine, malgré l'interdiction faite par le gouvernement.
En visite de 3 jours en République démocratique du Congo, la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, était hier à Goma et à Kichanga, au nord Kivu, où elle a notamment visité un camp de déplacés dans lequel vivent près de 15 000 personnes. Madame Haley échange ce vendredi avec le président Joseph Kabila, les responsables de la CENI, la CENCO et le numéro 1 de la MONUSCO. Mais la visite de la diplomate américaine est diversement perçue à Kinshasa, nous dit Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À Kinshasa, les attentes sont multiples concernant le séjour de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley. Si pour Lambert Mendeo Malanga, le porte-parole du gouvernement, et l'ambassadeur Kikaya Bin Karubi, conseiller principal au collège diplomatique du président Kabila, la diplomate américaine n'est pas venue parler politique, mais évaluer les réels besoins de la force onusienne en République démocratique du Congo. Au rassemblement, on en attend beaucoup plus. Dans un mémorandum lui adressé à Goma au Nord Kivu, cette plateforme politique de l'opposition réclame des sanctions ciblées contre Joseph Kabila et son entourage. Nous attendons de lui qu'il obtienne du président Kabila le respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016, a précisé de son côté Christophe Lutundula, cadre du G7. Dans les rues de la capitale de la RDC, la plupart des Kinois interrogés espèrent que cette première visite d'un cadre de l'administration Trump permettra l'accélération du processus électoral. Qu'elles mettent la pression sur nos autorités pour nous obtenir l'organisation rapide des élections, car nous voulons aller voter, a dit l'un d'eux. De retour à Kinshasa après Goma et Kichanga au Nord Kivu, Nikki Haley devrait échanger avec le président Kabila, les responsables de la CENI, le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Marcel Outembi, et Maman Sidikou, le numéro 1 de la MONUSCO. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, quitte la Centrafrique aujourd'hui et prévoit une escale au Cameroun avant de rejoindre Paris. L'évolution de la crise dans les régions anglophones sera au programme avec le président camerounais Paul Biya. Le point avec Morgane Guiriac.
Depuis novembre 2016, la communauté anglophone, qui représente environ 20% des Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation. On va pouvoir analyser l'évolution récente de la situation de la communauté anglophone, a déclaré M. Guterres à Bangui. Il dit avoir eu l'occasion plusieurs fois de s'entretenir avec le président Biya à propos de cette crise. Au moins 17 personnes ont été tuées le 1er octobre lors de la proclamation symbolique de l'Ambazonie, du nom de l'État que les sécessionnistes anglophones veulent créer. Antonio Guterres abordera aussi avec Paul Biya les questions de l'afflux de réfugiés centrafricains au Cameroun et fera part de ses préoccupations liées aux attaques du groupe Boko Haram dans la région.
Des milliers de réfugiés sud-soudanais sont sans abri à Khartoum après la démolition de leurs habitations par la police soudanaise. L'alerte a été lancée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Selon l'agence onusienne, plus de 450 000 sud-soudanais fuyant la guerre qui ravage leur pays ont trouvé refuge au Soudan voisin. Mais pour Khartoum, ils sont beaucoup plus nombreux et seraient 1 300 000. Ces derniers mois, la police soudanaise a démoli environ 220 abris ou habitations de réfugiés à Khartoum ou a transféré ces personnes vers d'autres endroits sans planification adéquate. Une situation que déplore le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui estime à 2000 le nombre de réfugiés privés de toit à cause de cette action de la police. De nombreux réfugiés, principalement des femmes et des enfants, se trouvaient hier encore dans la zone d'habitat informel où ont eu lieu ces démolitions. D'autres réfugiés ont été transférés à Omdurman, ville jumelle à Khartoum, provoquant, selon la chaire, un surpeuplement et une surcharge du réseau d'eau et des installations sanitaires.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, quelques heures avant le délai légal pour la publication des documents relatifs à l'assassinat du président John F. Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas, le président Donald Trump a ordonné que des centaines de documents restent encore secrets, temporairement au moins, à la requête du FBI et de la CIA essentiellement, au nom de la sécurité nationale. La publication du reste des documents a commencé hier soir.
Les États-Unis ont mis sur leur liste noire 7 officiels nord-coréens et 3 entités gouvernementales, les accusant des pires violations des droits de l'homme dans le monde. Le département d'État et celui du Trésor ont pris des sanctions économiques contre ces officiels, engagés entre autres dans les secteurs de la sécurité et du travail forcé à l'étranger, où des soldats nord-coréens sont envoyés pour travailler gratuitement, pendant que Pyongyang perçoit directement leur salaire.
Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a souligné hier que le président syrien Bachar al-Assad n'a aucun rôle à jouer dans l'avenir de son pays et doit s'en aller. M. Tillerson a tenu ses propos lors d'une escale à Genève après des entretiens avec l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Le secrétaire d'État américain vient de conclure une tournée d'une semaine dans les grandes capitales du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud.
Le gouvernement espagnol devrait obtenir aujourd'hui le feu vert du Sénat pour prendre le contrôle de la Catalogne, une mesure sans précédent en 40 ans de démocratie à laquelle les séparatistes pourraient répliquer par une déclaration d'indépendance. La rupture semble consommée entre la Catalogne et l'Espagne, dont les rapports n'ont cessé de se tendre depuis le début des années 2010. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Dili Dico.
Alcatel Networks et IOX Cable annoncent le début des opérations pour la connexion du système de câbles entre l'île Maurice, l'île Rodrigue, la Réunion, l'Inde et l'Afrique du Sud. Avec une distance de plus de 8850 km, le système de câbles IOX sera la première réalisation de ce type en accès libre dans la région. Les deux compagnies ont débuté le tracé du système de câbles qui devrait être mis en service en 2019. La Guinée équatoriale a entériné la suppression des visas pour les ressortissants de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, en application de l'accord conclu en 2013 sur la libre circulation en Afrique centrale. Tout ressortissant du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale et du Tchad peut désormais entrer sans visa en Guinée équatoriale avec un passeport biométrique et pour un séjour ne dépassant pas 3 mois. Au Gabon, le Fonds monétaire international va débloquer 400 milliards de francs CFA pour soutenir la mise en œuvre de son plan de relance économique. Selon l'agence Ecofin, cette somme fait partie d'un crédit de 617 milliards de francs CFA accordé au Gabon pour l'exercice 2017. Pour l'instant, seuls 31% des fonds ont été décaissés. Les 400 milliards de francs CFA restants seront débloqués en 2 tranches.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Départ pour le 30e tour du FASO.
Et oui, l'épreuve cycliste reine du continent africain avec ses premiers coups de pédale de 139 km pour la première étape entre Koulbila et Tengodogo. Pour cette 30e édition qui s'annonce, une participation presque record de 17 équipes et un budget de 380 millions de francs CFA selon l'organisation. 10 jours de fête s'annoncent pour les amoureux de la petite reine au Burkina Faso jusqu'au 5 novembre.
Foot aux États-Unis, on connaît l'affiche des demi-finales de conférence.
Et oui, les New York Red Bulls se sont qualifiés avec panache pour les demi-finales de la conférence des playoffs du championnat nord-américain de football, la MLS, en allant s'imposer 4-0 à Chicago en match de barrage, tout comme Vancouver, vainqueur de San José 5-0. Les New Yorkais affronteront au tour suivant le favori Toronto. Vancouver affrontera de son côté Seattle.
Le championnat d'Espagne et la vidéo.
La Liga devrait appliquer l'assistance vidéo à l'arbitrage à partir de la saison prochaine, annonce le président de la Fédération espagnole Juan Luis Larrea, emboîtant le pas ainsi à la Serie A italienne et à la Bundesliga allemande. Quant à la FIFA qui observe ces expérimentations, elle doit décider d'introduire ou non cette assistance lors du Mondial 2018. En Russie.
Tennis, Venus Williams en demi-finale du Masters.
À 37 ans, l'Américaine s'est hissée en demi-finale du Masters pour la 5e fois de sa carrière en éliminant la numéro 2 mondiale, l'Espagnole Garbine Muguruza. Le score 7-5, 6-4. Il n'y a plus qu'un billet disponible dans le groupe blanc de ce Masters de Singapour puisque la Tchèque Karolina Pliskova, numéro 3, était déjà qualifiée en dépit de sa défaite contre la Lettonne Yelena Ostapenko en 2-7, 6-3, 6-1. Allez Drissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Atlanta Hawks contre Chicago Bulls, 86-91. Dallas Mavericks contre Memphis Grizzlies, 91-96. Boston Celtics bat Milwaukee Bucks, 96-89. et Portland Trail Blazers, battus de justesse par LA Clippers 103-104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydou Dia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La crise politique qui secoue le Togo depuis 2 mois et a fait au moins 16 morts a suscité des appels au dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Washington, Paris et la CEDEAO, à travers le président Alassane Ouattara, demandent l'ouverture de discussions. Comment l'opposition accueille-t-elle ces appels? Yacouba Ouédraogo a joint Brigide Adiamagbo Johnson, coordinatrice de 14 partis d'opposition.
Au moins une vingtaine de fois, nous avons eu des dialogues qui se sont soldés par des accords qui n'ont pas été respectés. Néanmoins, nous restons prêts pour discuter. Il y a un appel à libérer l'imam de Sokodé et toutes les personnes détenues politiques.
Est-ce un préalable que vous posez avant d'aller sur la table des négociations?
Nous avons déjà fait comprendre à nos interlocuteurs, à des chefs d'État, aux institutions, qu'est-ce que le régime va pouvoir accepter s'il ne pose pas des actes qui montrent qu'il est dans de bonnes dispositions pour trouver des solutions durables.
Vous êtes pessimiste?
Nous sommes optimistes, sinon nous ne nous battrions pas. Nous avons l'espoir que dans tous les cas, malgré toutes les péripéties, le pays ne basculera pas définitivement dans la violence parce que le peuple togolais n'a pas fait ses choix. C'est les mains nues qu'il est sorti et qu'il a montré au monde entier qu'il veut le changement. Et ceux qui sont adeptes de violence, ils atteignent très rapidement leurs limites.
Vous avez demandé une modification de la Constitution, notamment un retour à la Constitution de 1992. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un projet de modification constitutionnelle. Vous rejetez ce projet-là. Pourquoi?
Nous le rejetons parce que cela ne permet pas d'obtenir ce que le peuple veut. Bien au contraire, si on soumet ce texte, que le peuple ait voté oui ou non, il y aura le même résultat. C'est-à-dire, ça va conforter ce régime cinquantenaire avec lequel le peuple veut rompre. Et c'est le fond de la crise, c'est ça le fond de l'histoire.
Vous avez demandé entre autres la limitation des mandats présidentiels à 2, ce qui est contenu dans le nouveau projet. Qu'est-ce qui achoppe véritablement dans cette question de limitation des mandats présidentiels à 2 là?
C'est une limitation de mandat qui n'est pas dans l'absolu. On a amputé le bout de phrase qui donne la garantie que plus aucun Togolais n'arrivera à manœuvrer pour rester au pouvoir pendant plus de 10 ans. Et de plus, on a ajouté une disposition dont les conséquences sont telles que tant que le régime actuel sera là, eh bien, il ne sera pas concerné par la limitation de mandat. C'est un jeu de dupes. Le peuple veut changer avec le régime incarné par la famille Nyasimbe depuis 50 ans.
L'opposition entend manifester la semaine prochaine. Il y a eu les récents appels au dialogue. Le gouvernement interdit les manifestations pendant les jours ouvrables. Qu'est-ce que vous comptez faire?
Nous n'avons jamais reconnu cette limitation-là. Et nous appelons à des manifestations les 7, 8 et 9 novembre.
Pour demander quoi?
Le retour à la Constitution de 92, la révision du cadre électoral, le déverrouillage des institutions, la libération de ceux qui sont injustement détenus parce qu'ils manifestent pour leurs droits.
C'était la coordonnatrice de 14 partis d'opposition togolais, Brigide Adiamagbo Johnson, jointe à Lomé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, démission surprise hier de Tahirou Barry, ministre de la Culture et du Tourisme. Les réactions avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Je suis Issaka Lengani, journaliste éditorialiste au journal hebdomadaire L'Opinion. Surprise, demi-surprise. Surprise parce que, vraiment, on ne s'attendait pas à ce que vraiment ça soit fait dans ces termes-là. parce qu'il faut dire que M. Tayrou Bala était très violent dans ses critiques. Ensuite, demi-surprise parce qu'on sentait la, ça venir parce qu'il y avait une crise au sein de son parti dont il a été évincé. Et donc, on s'attend à ce que, au niveau de la représentation du parti, dans le gouvernement, il y a des changements, des positifs de changements. Monsieur Tayrou Bala a-t-il devancé Liguane dans l'eau? Dieu seul le sait. Les jours à venir vont nous édifier.
Baz Bélatis, musicien, président de l'Association des jeunes musiciens de Burkina Faso. En fait, cette démission, ça a plongé tous les artistes dans les mois total. C'est une grosse surprise parce que c'est un monsieur, quand même, c'est un monsieur qui a bien travaillé, qui a bien servi son peuple. La culture, que son ministère, quand même, à notre niveau, au niveau des artistes, quand même, je crois que les artistes sont attestés, sont assis, ils ne savent pas quoi dire. Mais je crois qu'il a ses raisons. Ses raisons sont là. Nous ne connaissons pas ses raisons, mais il a ses raisons.
Professeur Diko Mamoudou, président par intérim de la Nouvelle Alliance du Faso. Je ne suis pas très surpris de la démission de Tayrou Bala, mais j'admire son courage et sa décision politique. Mais c'est quand même une innovation parce que c'est l'une des rares fois qu'un ministre de la République démissionne du gouvernement délibérément. J'ai vu également ses différents messages sur sa page Facebook montrant qu'il a une certaine amertume avec l'actuel gouvernement. Probablement, ça dénote qu'il a fait un mauvais calcul. Et lui, il est jeune, il avait des ambitions, il est rentré dans une équipe qui sont tous des anciens collaborateurs de Blaise. Et ça allait m'étonner qu'il puisse se retrouver en tant que jeune ambitieux. C'est pour ça que je ne suis pas très surpris de sa démission.
Idrissa Nogo, le coordinateur national du mouvement Plus Rien Sera Comme Avant, le MPRESCA. Surpris, ce serait trop dit que depuis un certain temps, il avait maille à partir, il n'était pas en odeur de Saint-Étienne, donc avec son papa, comme lui aime le dire, je fais allusion donc à Laurent Bado, ses parents. Ceci expliquant cela, bon, naturellement, donc, il faudra s'attendre donc à ses conséquences-là, puisque, bon, vous l'avez remarqué, et Laurent Bado a eu à faire une sortie tonitruante, où il a mis pratiquement mal à l'aise le jeune Tayrou Bala. Donc, du point de vue même moral, ça a dû lui peser lourd sur la conscience, et voici les conséquences, il a dû démissionner.
Salut, je m'appelle Osibi Joan, artiste musicien. Nous sommes très étonnés de la démission de notre frère, M. Tayrou Bala, ministre de la Culture et du Tourisme du Burkina Faso. Ce qu'on retient de lui, c'est un monsieur qui est venu modestement apporter sa pierre à l'édification de la culture de notre pays. Nous lui disons merci.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Sénégal, le décès d'Aïcha Diallo, une jeune fille de 12 ans, pour négligence médicale présumée à l'hôpital de Pékin, une banlieue de Dakar. Ce décès agite l'opinion publique et relance le débat sur la situation des patients dans les structures sanitaires de services publics. Ce décès intervient après la récente panne de la machine de radiothérapie qui oblige les malades du cancer à se faire soigner au Maroc. De Dakar, notre correspondant Sédina Abagay fait le point.
Au lendemain de cet événement malheureux, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé d'éventuelles sanctions. Mais il a surtout reconnu qu'il y avait un problème dans les hôpitaux sénégalais.
Pour ce cas de figure-là, une enquête est en cours. Nous ne préjugeons de rien a priori. Pour déterminer effectivement des responsabilités, s'il y a lieu. Et à partir des résultats de l'enquête, nous allons effectivement prendre les dispositions qu'il faut prendre, et quelles que soient ces dispositions. Dans un système où il y a d'excellents professionnels, mais dans ce système-là aussi, il faut tous les jours se battre pour sortir ceux qui n'ont pas la conscience de servir la santé du pays.
Mbalo Diakam, secrétaire général du SUTSAS, le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, affirme que les manquements sont nombreux dans les hôpitaux.
Des fois, les collègues passe plus de 24 heures dans les structures, alors que 12 heures, c'est la limite normale. Un déficit de personnel, un déficit de spécialistes. Les structures, disons, qui sont chargées d'accueillir ces urgences sont presque toutes dépassées parce que la capacité d'urgence était réduite. Les urgences, on les compte, ils sont peu nombreux et souvent aussi les intrants posent problème parce que tout aussi est tributaire de ces budgets de fonctionnement.
De leur côté, les usagers dénoncent un manque criant d'organisation dans les structures sanitaires. Momad Cissé, vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal.
On vigile même, vu la proximité qu'il a avec le personnel médical, arrive même à occuper un poste où il ne devait pas l'être. On a constaté des vigiles qui remplissent des fiches. Cette personne-là ne peut pas remplir le rôle de l'infirmier. Cette personne-là n'est pas formée pour orienter pleinement, avec exactitude, le patient dans tel ou tel département ou la pathologie. Parcourez les hôpitaux, vous allez voir des vigiles qui sont dans les bureaux ou à l'entrée ou à l'accueil orientation, alors qu'ils auraient dû être à la porte.
Mohamed Cissé évoque également le problème de la formation et de l'encadrement du personnel sanitaire.
Vous savez, il y a beaucoup d'écoles privées qui puent. Et ces stagiaires-là, si vous tombez dessus, c'est des gens qui doivent être encadrés. Un stagiaire ne doit pas pleinement remplir une fiche. À n'importe quel poste qu'un stagiaire doit occuper, il doit être encadré par un personnel formé expérimenté.
Mbalo Diatcham, secrétaire général du Sud-SAS, estime que la qualité de la formation doit être une priorité pour les autorités afin d'éradiquer les manquements qui gangrènent le secteur de la santé.
Si on doit interroger la formation, évidemment, elle a été libéralisée. Il nous faut d'abord une réelle inspection des écoles pour voir si ces écoles-là, dans le cadre de la formation, sont en train de se conformer à leur cahier de charges. En tout cas, nous invitons le gouvernement à faire de l'inspection des écoles, surtout paramédicales, sérieuses. C'est de ce point de vue qu'on peut régler ces questions-là, qui sont liées à ces problèmes de maladresse, de traitement, de mauvais comportement.
Malgré plusieurs programmes de prise en charge des malades, notamment les enfants et les personnes âgées, le secteur de la santé publique demeure dans des problèmes d'ordre structurel qui affectent son bon fonctionnement. Le renforcement des établissements sanitaires en ressources humaines et matériels de qualité semble être vital. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le bilan de l'épidémie de peste qui frappe Madagascar depuis le mois d'août s'est alourdi pour atteindre 124 morts. Pour tenter de l'enrayer, le gouvernement a interdit les réunions publiques dans la capitale Antananarive et ordonné la fermeture de nombreux établissements scolaires. Solange Niamoulissa a joint Sylvain Andjalay, directeur de publication du quotidien L'Express de Madagascar.
Le dernier bilan établi par le Bureau national de la gestion des risques catastrophes fait état de 124 morts. Pour presque un millier de malades.
Les chiffres n'ont fait qu'augmenter. Est-ce que le gouvernement apporte une réponse appropriée à cette épidémie?
Le gouvernement fait beaucoup d'efforts, en partenariat d'ailleurs avec les organismes internationaux, dont l'OMS et l'UNICEF. Mais ceci dit, il y a de plus en plus de morts tous les jours, parce que Madagascar est très grand. On ne peut pas répertorier toutes les victimes au même moment. Donc c'est normal que les chiffres augmentent petit à petit et de jour en jour.
Mais est-ce que le gouvernement fait vraiment assez?
Il fait ce qu'il peut. D'ailleurs, il a fait appel à l'aide internationale. D'un côté, le ministère de la Santé a fait ce qu'il a à faire, avec le ministère de l'Éducation nationale également, avec la fermeture des écoles. Mais il est vrai que le gouvernement ne montre pas assez de fermeté dans les mesures qu'il a prises. Par exemple, la fermeture des écoles devait aller jusqu'au 6 novembre. Mais aujourd'hui, les écoles catholiques ont décidé de rouvrir malgré les risques. De l'autre côté, on a fermé les écoles et les spectacles, alors que les cultes religieux et les autres rassemblements n'ont pas été interdits par le gouvernement. Et du coup, la population se demande s'il y a vraiment une épidémie ou pas, parce que le gouvernement ne prend pas les mesures qu'il faut.
Et qu'en est-il de la sensibilisation?
C'est un peu trop tard parce que le gouvernement a été pris de court, étant donné que la peste, depuis quelques années, survient à la même période. Depuis, disons, 2012 ou 2013, c'était la version bubonique qui n'est pas très dangereuse. Mais là, maintenant, c'est la peste pulmonaire qui se transmet très vite et qui est mortelle en 24 ou 48 heures si le malade ne reçoit pas des soins. Le gouvernement n'a pas eu le temps de réagir, mais il s'est rattrapé à travers les médias nationaux dans les sensibilisations, le nettoyage de la ville, des quartiers, etc.
Et comment la population vit tout ça?
La population est un peu désemparée parce que, comme toute épidémie, la peste, ça fait peur. Et il y a aussi le bilan qui est publié tous les jours, qui ne cesse pas de s'alourdir. Mais il y a aussi, de l'autre côté, le manque de sensibilisation, ce qui fait qu'une grosse partie de la population ne croit pas à l'existence de l'épidémie et ça complique la lutte contre la peste.
C'était Sylvain Ranjalay, directeur de publication du quotidien L'Express de Madagascar.
Dans la
prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du paludisme chez les femmes enceintes et des conséquences chez les enfants.
L'infection palustre pendant la grossesse représente un problème de santé publique en Afrique, provoquant des anémies maternelles, des avortements, ainsi que des faibles poids de naissance et des retards de croissance chez les nouveau-nés.
Pour en parler, nous recevrons le professeur Philippe Donen de l'Université libre de Bruxelles, auteur d'une étude sur la question dans le Sud Kivu en RDC.
Nous écouterons aussi le docteur Rwamba Toussaint, médecin généraliste au Burkina Faso. Il nous parlera des moyens de prévention.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Voilà pour Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et Dan Albertson. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.